Vous écoutez RCF, il est 8h. Soyez les bienvenus en étant local. Avant de passer sur la suite de la matinale, on va prendre connaissance de l'information nationale et internationale avec un flash. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour à tous. En Chine, 12 personnes sont décédées et 5 autres blessées après l'inondation du métro de Zhengzhou. La ville a connu une série d'orages violents. 200 000 habitants ont été évacués. L'armée chinoise met en garde contre le risque imminent de rupture d'un barrage dans le centre du pays. Le président chinois Xi Jinping parle d'une situation extrêmement grave. Les incendies continuent de ravager une partie du continent américain. La province de l'ouest du Canada a décrété l'état d'urgence en raison de la progression des flammes et des conditions météo qui devraient empirer la situation dans les prochains jours. Presque 6 000 habitants étaient concernés hier par un ordre d'évacuation dans la province. Le président de transition au Mali a échappé à une tentative d'assassinat au couteau alors qu'il assistait au rite musulman de l'Aïd à la grande mosquée de Bamako. Le colonel Goïta est devenu l'homme fort du pays après avoir participé à 2 coups d'état en moins d'un an. Son assaillant a été interpellé. La France condamne vivement cette agression et appelle à la sérénité pour la poursuite de la transition jusqu'à son terme. Emmanuel Macron potentiellement espionné par le Maroc. Dernière révélation de l'enquête menée par 17 médias internationaux ayant mis au grand jour un système d'espionnage mondial via le logiciel Pegasus commercialisé par une entreprise israélienne et utilisé par plusieurs États. En l'occurrence, le portable du président français fait partie d'une liste de numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'État marocain. Il figure aussi le numéro de 14 membres du gouvernement, dont Gérald Darmanin ou encore Jean-Yves Le Drian. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, a réagi l'Élysée. Le pass sanitaire est étendu à partir d'aujourd'hui aux lieux de loisirs et de culture, cinéma, théâtre, musée qui rassemblent au moins 50 personnes. Dans le même temps, les députés examinent cet après-midi en séance publique le projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire à de nombreux autres lieux publics dès le mois d'août, notamment les bars, restaurants et trains. En commission, les députés ont voté pour un report de la mise en place de ce pass sanitaire pour les 12-17 ans à la fin du mois de septembre, alors que le gouvernement voulait l'appliquer dès la fin août. Le Sénat, lui, s'apprête à adopter en première lecture le projet de loi relatif à la décentralisation, d'abord surnommé 4DS, puis 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Le texte accorde de nouvelles compétences aux collectivités, mais il devra ensuite trouver une place à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le cabinet de la ministre de la Cohésion des Territoires table toujours sur une adoption définitive avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis un nouveau bébé panda est attendu à Beauval. La femelle du zoo est bien enceinte et la naissance devrait avoir lieu fin juillet, début août. Beauval qui avait déjà accueilli un premier bébé panda, c'était en 2017.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la suite de la matinale. Merci Gilles pour la matinale, merci Clotilde Dumais pour le flash d'information. C'est la suite de la matinale maintenant qui commence, on est ensemble jusqu'à 9h03.
La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant que tout commence.
Et bien sûr, dans cette suite de matinale, un programme que vous connaissez par cœur si vous êtes Guyanais, parce que je sais que vous écoutez tous RCF Saint-Gabriel, mais que vous ne connaissez pas si vous êtes un touriste en vacances en Guyane. Alors, je vous le redonne encore une fois, dans quelques minutes, à 8h07, ça sera l'invité de la matinale. À 8h15, ça sera notre instant de méditation. Nous passerons en prière jusqu'à 8h30, où nous retrouverons le journal de Vatican News à 8h50. C'est la suite de l'histoire qui clôturera cette suite de matinale. Mais comme on le fait d'habitude, on démarre en musique, musique dynamique. Ça, c'est pour vous réveiller un petit peu.
Lulu vend des étoiles, Jaco plongé dans un bistrot.
Dédé, goûter les vins, moi j'étais paro à l'heure. Et Gégé l'appelle Caro, Pierrot ne faisait rien.
On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco.
Fleury sur le capot, qui rêvait de Provence et qui est mort à Fontainebleau.
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage au jour. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout.
Quatre mille
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage au jour. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fous, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.
Voilà, des petits morceaux de musique comme ça, dynamique, qui nous mettent eux aussi dans la joie et la bonne humeur. Il est 8h07 maintenant sur RCF Saint-Gabriel. C'est l'heure pour nous de retrouver l'invité de la rédaction.
Le projet de loi climat et résilience a été définitivement adopté hier. Les députés et les sénateurs ont successivement voté ce texte. Selon le ministère de la Transition écologique, il permet à la France de tendre vers l'objectif de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990. Le texte traduit les 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenues par Emmanuel Macron. Le président avait promis de les reprendre sans filtre, c'était son expression. Et finalement, le texte qui vient d'être adopté est relativement différent. On va voir à quel point avec vous. William Mocan, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes architecte et urbaniste et membre du Conseil régional des Pays de la Loire et vous faites surtout partie des 150 citoyens tirés au sort dans la Convention citoyenne pour le climat. Alors le texte qui vient d'être voté découle de votre travail. Il interdit notamment la mise en location de passoires thermiques, les vols aériens intérieurs quand il existe une alternative en train d'une durée de moins de 2h30. Il crée un délit d'écocide. Quel est le regard que vous portez sur le contenu final de cette loi ?
Sur le contenu final, bon, c'était annoncé déjà depuis quelques semaines. Hein, le projet de loi n'était pas à la hauteur des mesures qu'on avait livrées. Hein, vous en avez cité une, par exemple, sur la question d'alternatives au train en moins de 2h30. La Convention citoyenne avait demandé 4h. Sur beaucoup de sujets comme ça, les mesures ont été édulcorées. Donc, du coup, on a un projet de loi un peu plus faible que ce que les mesures avaient été données.
Vous avez le sentiment que l'exécutif a été un petit peu frileux, justement, en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?
Eh ben, le problème avec le réchauffement climatique, c'est que c'est quelque chose qui doit se penser sur le long terme. Et ça nécessite des actions un peu fortes au début pour obtenir des résultats sur le long terme. Le truc, c'est que si vous démarrez par des petits pas, vous risquez au final de pas complètement répondre à l'enjeu climat et donc de passer à côté de la question.
Le président Emmanuel Macron avait promis de reprendre vos propositions sans filtre, je vous le disais, c'était son expression. On imagine qu'il y a eu de la déception de voir justement qu'elles n'ont pas été reprises telles quelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez fait partie de cette convention citoyenne ?
C'est vrai que la notion de sans filtre a beaucoup évolué entre le début, le milieu et la fin de la convention citoyenne. On avait vraiment l'espoir, hein, je vous le dis, hein, quand on a transmis notre rapport il y a ça un an, hein, 149 mesures auxquelles on croyait, hein, auxquelles on pensait qu'on n'avait quand même pas demandé la Lune, hein, qui était assez importante pour le climat, et puis au le foie aussi, n'oubliez pas la justice sociale. Puis de les voir finalement un peu inquiets au moment des concertations, les voir petit à petit partir. Je crois qu'il y a récemment la question du référendum, de l'article 1er qui est parti sans tambour ni trompette au détour d'une question au gouvernement. Donc c'était, euh, petit à petit, à petit feu, le projet de loi s'est affaibli. C'est relativement dommage.
Le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance indépendante, a jugé insuffisante l'action de l'État en matière d'environnement, et il doute aussi de sa capacité à respecter les engagements pris lors de l'accord de Paris de 2015. C'est un petit peu le même constat que vous faites, il y a encore du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour justement tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique?
C'est une observation intéressante, celle du Haut Conseil pour le climat. À mon tour, j'aimerais beaucoup retourner la question qui nous avait été posée, en quoi l'action gouvernementale qui est faite actuellement va permettre de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et là, pour le coup, avec la loi climat et les actions autour, il y a des petites actions qui ont été faites, quelques avancées qu'il faut saluer, mais simplement le fait, je pense qu'on n'arrivera pas à atteindre l'objectif sur lequel on se donne, surtout que l'Union européenne, elle se donne 55% d'ambition de réduction. Et là, en affaiblissant les mesures de la Convention citoyenne, je ne pense pas qu'on arrivera à atteindre ça. Donc moi, j'ai encore beaucoup de questions vis-à-vis du gouvernement, savoir qu'est-ce qu'il va faire vraiment pour être championne du climat, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Cette convention citoyenne, justement, dont vous avez fait partie, ça aussi, on l'imagine, était une aventure humaine. 150 personnes qui sont chargées ensemble de trouver des solutions, de faire des propositions au gouvernement. Qu'est-ce que vous en retenez, vous?
Moi, à titre personnel, je suis vraiment très fier d'y avoir participé. Si c'était à refaire 150 fois, je le referais sans problème. Je pense qu'elle a été très bien organisée de bout en bout, c'est-à-dire du début... le fait de voir des experts, de se prendre des fameuses claques sur le climat, de contribuer à l'élaboration des mesures et rendre le rapport. Toute cette partie-là était très bien organisée. L'après était beaucoup plus délicat, en fait. Pendant toute la durée de la Convention citoyenne, on avait peur que ça ait été repris en se disant ce qui va être fait de la Convention citoyenne, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Je pense que quand on a rendu notre rapport, on était plutôt assez ambitieux. Aujourd'hui, le constat, il est que la loi climat permet pas d'atteindre les objectifs. Et donc, dans ce cas-là, on passe par la petite porte à un sujet majeur dans lequel on a besoin de puiser beaucoup de force. Et c'est dommage de pas avoir pris l'occasion de cette loi climat, parce que ça reste quand même un temps exceptionnel dans la démocratie, et puis même pour le quinquennat, d'avoir fait quelque chose. Au final, on se retrouve à reporter la question à plus tard. Je trouve ça vraiment dommage.
Justement, oui, cette convention citoyenne pour le climat, ça a été quand même assez inédit sur le plan démocratique. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner à l'avenir, selon vous?
Je pense que dès le départ, il faut que, disons, la convention citoyenne, si elle est bien faite, je pense qu'elle peut mettre autour de la table les politiques, les citoyens, les experts, les entreprises, et travailler des sujets en co-construction. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Au final, on a remis notre rapport, puis notre rapport a été digéré, refait en action climat. Mais si vous voulez, après, il n'y avait plus de retour. Je pense qu'il manquait, pendant la convention citoyenne, des points de retour dans lesquels... on se dit, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire. Je pense que une véritable confiance et co-construction a été importante à ce moment-là. Là, concrètement, la confiance, il n'y en a pas à la fin, puisque même si on a continué à essayer de défendre nos mesures, je ne crois pas qu'on ait été entendu.
Merci beaucoup, William Ocan. Merci d'être intervenu sur l'antenne de RCF. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, membre du Conseil régional des Pays de la Loire, et vous avez fait partie donc des 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat.
Voilà pour cet invité de la rédaction. Et puis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bien sachez que vous pouvez le réécouter en réécoute sur le site rcf.fr. Et puis, si vous voulez le partager avec quelqu'un pour le faire écouter, vous pouvez aussi le faire. Cette suite de la matinale, là aussi, elle est enregistrée en intégralité et en réécoute sur le site rcf.fr dans votre radio locale. Bien sûr, il faudra chercher RCF Saint-Gabriel. Allez, nous passons maintenant à méditation. Il est quasiment 8h15 et nous commençons cet instant de prière par la première lecture.
Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, versets 1 à 5. puis 9 à 15. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël, présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël. Puis, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuit. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Mamou ? » Ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci pour cette première lecture. Nous allons continuer cet instant de prière avec le psaume du jour.
Dans le psaume 77, ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent : « Dieu peut-il apprêter une table au désert ?» Sans doute, il a frappé le rocher. L'eau a jailli, elle coule à flots. Mais pourra-t-il nous donner du pain et procurer de la viande à son peuple ? Alors, le Seigneur entendit et s'emporta. Il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère monta contre Israël, car il n'avait pas foi en Dieu. Il ne croyait pas qu'il les sauverait. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangent, ils sont rassasiés. Dieu contentait leur envie.
Voilà pour ce psaume du jour. Nous allons continuer maintenant notre instant de prière avec la proclamation de l'évangile. Ils ont donné du fruit à raison de 100 pour 1. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 13, les versets 1 à 9. Ensuite, nous écouterons la méditation de cet évangile qui sera faite par la pasteur Corinne Chariot. Et puis, c'est Marie-Louise Valentin et Hubert Pourrel qui clôtureront cet instant de prière avec un chant final. Le semeur est sorti pour semer.
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, Des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Un semeur est sorti pour semer. La figure du semeur est ici bien étonnante. Il sème à tout va, il ne fait pas d'économie. Il sème sans compter et partout. Au bord du chemin, dans les endroits pierreux, dans les épines et dans la bonne terre. Il est très insolite ce semeur, car la graine n'est pas sûre de germer et de donner du fruit au bord des chemins, dans les endroits pierreux ou envahis par les épines. À vue humaine, cela semble bien être du gâchis de semer dans ces endroits-là, car les rendements seront peut-être bien peu abondants. Et pourtant, rien ne l'arrête. Il sème partout ce semeur. Il sème abondamment. Je partage avec vous le fait que cela semble de prime abord irrationnel. Cependant, j'aime cette figure du semeur qui dit Dieu. J'aime cette figure de Dieu qui sème justement là où c'est difficile, là où il y a peu d'espoir que la graine vive et se développe beaucoup. Le semeur nous dit Dieu qui sème sa parole jusque dans les endroits les moins propices. D'ailleurs, c'est ce que fait Jésus, et sa parole rencontre des résistances au sein même de son peuple. Les controverses avec les pharisiens sont des symptômes de cette résistance. Ces étouffements de sa parole sont bien réels. Pourtant, à la fin des temps, lors de l'avènement du royaume des cieux, le Christ sera victorieux. En attendant, il continue de semer partout. Nous pouvons accueillir que Dieu peut semer sa parole jusque dans les endroits les plus secs, les plus pierreux, les plus encombrés et parfois même à la marge de nos existences. Ainsi, il veut nous rejoindre par sa parole et il sème sans relâche et sans compter. Qu'à notre tour, avec lui, nous vivions de sa parole et que nous la partagions. Car sa parole peut murmurer à chacune et chacun qu'il est précieux aux yeux de Dieu, qu'il est aimé de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La moisson de l'amour nous attend chaque jour.
Dieu sème en nous une parole d'humanité.
Le Fils de l'homme vient nous rencontrer.
Le semeur est sorti. Semer. la moisson de l'amour nous attend chaque jour.
Dieu sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever.
Voilà pour cet instant de prière qui se clôture à l'instant. Vous aurez un autre instant de prière sur nos antennes cet après-midi à 15h. Ça sera un chapelet, comme nous sommes le mercredi. Le chapelet sera donné par des enfants. Allez, quelques notes de musique pour patienter jusqu'à 8h30. Et en attendant que l'information revienne sur RCF Saint-Gabriel. Merci de votre fidélité.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, pas trop voulu te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Paris et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Ça, j'arrive à t'oublier. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fous, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Nous partons maintenant en direction Rome pour rejoindre la rédaction de Radio Vatican et écouter le journal de Vatican News. Moi, je reviens vous accompagner juste après.
C'était une figure de la RDC. Hommage national hier au cardinal Laurent Monsengwo. Le cardinal Fridolin Ambongo a célébré la messe à laquelle ont assisté de nombreux responsables du pays. Nous y revenons juste après les titres. Également à la une de ce journal, la tentative d'assassinat du président de la transition au Mali. Les tentatives de contre-putsch ne sont pas rares dans le pays. Analyse à suivre. Le président français Emmanuel Macron surveillé avec le logiciel Pegasus. Également 15 ministre de l'Hexagone, des numéros sélectionnés par les renseignements marocains. Une solution à deux États. Après sa visite à Chypre, le président turc est on ne peut plus clair. Au grand dam, nous l'entendrons, de l'Union européenne. Puis enfin, dans notre dossier de la rédaction, en fin de journal, direction Cuba. Une vague de manifestations inédites a traversé Cuba ces dernières semaines. Pour le père Jean Pichon, sur place depuis 13 ans, le climat sur l'île se dégrade. Témoignage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. En RDC, hommage national au Parlement pour le cardinal Laurent Monsengwo, mort le 11 juillet dernier en France. Aux côtés de leur gouvernement et Premier ministre, les présidents Félix Tshisekedi de RDC et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, accompagnés de tout un parterre d'officiels et de fidèles, ont rendu hommage hier à l'archevêque émérite de Kinshasa. Il sera inhumé aujourd'hui en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est le cardinal Fridolin Obongo qui a officié la messe à Kinshasa, Pascal Moulégois.
Des milliers de catholiques et autres chrétiens de tous bords ont envahi les gradins du siège du Parlement pour rendre hommage au cardinal Laurent Monsengwo. Ces images étaient placardées partout. La télévision publique a assuré la retransmission de l'événement. Avant l'oraison funèbre, les gerbes et les fleurs des hautes autorités, le cardinal Fridolin Ambongo, successeur de Laurent Monsengwo à la tête de l'archevêché de Kinshasa, n'a pas ménagé les autorités.
On ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Monsengwo si on laisse la population croupir dans la misère, alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité.
Acteurs politiques, religieux, diplomates et autres ont vanté les caractères bien trempés du défunt, son combat pour la justice et contre la médiocrité. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a reconnu à Monsengwo un symbole pour la nation. À titre posthume, le président Félix Tshisekedi a admis l'ancien archevêque dans l'ordre des héros nationaux au grade de grand cordon. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
Et plus de précisions sur l'hommage national au cardinal Monsengwo à retrouver sur la page Afrique de notre site internet. Les élections législatives et présidentielles indirectes débutent ce week-end en Somalie et le mouvement djihadiste Shebab compte bien peser sur le scrutin. Hier, le groupe lié à Al-Qaïda a envoyé un message aux candidats. Apprenez de ceux qui vous ont précédé et ne vous laissez pas duper par les promesses creuses, avertissent les djihadistes. Dans une Somalie meurtrie par la guerre civile, le long processus des élections indirectes se tient finalement après le revirement de position du président Farmajo qui avait d'abord annoncé prolonger son mandat de 2 ans sans passer par le vote. Le président de la transition malienne visé par des coups de couteau alors qu'il était à la mosquée pour la fête de l'Aïd hier matin, un homme a tenté de le poignarder à la sortie de la prière. Assimi Goïta n'a pas été blessé. Je vais très bien, a-t-il déclaré quelques heures plus tard à la télévision nationale et dénonçant un acte isolé. 2 hommes ont été interpellés, l'assaillant et un complice, toujours dans les mains des renseignements hier soir. Les précisions à Bamako de Paul Lorgerie.
Si son identité ainsi que son mobile demeurent inconnus à l'heure actuelle, les remous de ce type ne sont pas rares lors des périodes de transition au Mali. Lamine Savane est politologue au sein d'une des principales universités maliennes.
Les transitions militaires se passent très rarement sans tentative de contre-putsch. Nous l'avions déjà connu avec la tentative de contre-putsch des Bérets Rouges qui s'est soldée par une lutte fratricide entre Bérets Verts et Bérets Rouges.
Et lors de l'année écoulée, le président actuel se serait fait de nombreux ennemis, tant dans l'arène politique qu'auprès de ses frères d'armes. Mais une troisième option est envisageable. Malgré les efforts de la communauté internationale et des forces armées partenaires, les djihadistes grignotent toujours plus de territoire dans le pays. Alors que la menace se concentrait au nord et au centre ces dernières années, elle glisse doucement vers le sud, à la frontière avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Une évolution de la situation avec laquelle le président malien doit composer opposés jusqu'aux prochaines élections de février 2022, tandis que la force antiterroriste française Barkhane, forte de 5100 hommes, se retire progressivement. Paul Lorgerie, Bamako, pour Radio Vatican.
En Allemagne, le bilan des victimes des inondations ne cesse de s'alourdir. 169 personnes sont mortes, des milliers ont perdu leur maison. Le gouvernement a annoncé hier débloquer une aide d'urgence de plusieurs centaines de millions d'euros pour soulager les sinistrés. Intempérie dramatique également en Chine. 12 personnes sont mortes dans l'inondation du métro de la ville de Zhengzhou, dans le centre-est du pays. La métropole est touchée par des pluies et orages les plus forts depuis une soixantaine d'années. Plus de 200 000 personnes ont été évacuées et un barrage risque de céder d'un instant à l'autre, alertent les autorités. Le scandale n'en finit pas de faire parler de lui. Pegasus, du nom d'un logiciel espion développé par une société israélienne et qui aurait infiltré les téléphones portables d'au moins 50 000 personnes. Avocats, militants des droits de l'homme ou journalistes, mais aussi responsables politiques et non des moindres. Ainsi, le président français Emmanuel Macron et une large part de l'exécutif en auraient été victimes. Olivier Bonnel.
Oui Marine, en 2019, les numéros de téléphone du président français, mais aussi du premier ministre Édouard Philippe et de 14 de ses ministres ont été sélectionnés pour une mise sous surveillance par Pegasus. C'est ce que révèle Le Monde, le quotidien français et 16 autres journaux de la planète révèlent dans une série d'enquêtes l'ampleur de cet espionnage. Pegasus permet à distance de récupérer des messages et même d'écouter des conversations. Alors rien n'indique si les téléphones ont été infectés par le logiciel espion, particulièrement sophistiqué et invisible. Mais l'affaire est prise très au sérieux à Paris. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, a réagi l'Élysée. Le Premier ministre Jean Castex a lui indiqué que des investigations ont été ordonnées suite à ces révélations. C'est au Maroc, l'un des pays qui a largement utilisé les services de NSO Group, l'entreprise qui commercialise Pegasus, que le numéro d'Emmanuel Macron a été saisi au sein des services de sécurité. D'après Le Monde, le royaume chérifien aurait ciblé plus de 10 000 numéros, dont près de 10% concernent la France. De nombreux députés français, Marine, de tous bords politiques sont également dans la liste des portables visés par ce logiciel. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées.
Merci Olivier. Olivier Bonnel. Un triste record. Hier, au moins 430 personnes ont tenté la traversée de la Manche pour rejoindre les côtes britanniques depuis la France. Et ce, dans la seule journée d'hier. Les ministres de l'Intérieur français et britanniques se sont entretenus dans la soirée, promettant de renforcer leur coopération contre l'immigration clandestine. Après sa visite de 2 jours dans la partie turque de Chypre Nord, Recep Tayyip Erdogan est on ne peut plus clair. Pour lui, la solution à 2 États est la seule solution envisageable pour l'avenir de Chypre. Le chef de l'État turc continue donc de se montrer intransigeant, et ce, malgré les mises en garde de l'Union européenne. À Istanbul, Anne Andlauer.
Ce n'était certainement pas ce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait en tête lorsqu'elle espérait au début du mois un signal positif du chef de l'État turc au cours de sa visite dans la partie nord de Chypre. Devant les officiels chypriotes turcs, Recep Tayyip Erdogan a plaidé une fois de plus, et en des termes virulents, pour une solution à 2 États rejetée par les Européens. Il n'est plus possible pour nous de croire les chypriotes grecs et de perdre 50 ans de plus. Sur Chypre, il y a 2 États et 2 peuples. Tôt ou tard, la communauté internationale acceptera cette réalité, a martelé le président turc, promettant de ne pas revenir sur cette position. Recep Tayyip Erdogan se montre donc inflexible au risque de poursuivre les tensions avec l'Union européenne, même s'il s'est gardé pendant sa visite d'annoncer toute initiative concrète qui aurait pu les aggraver. Le chef de l'État turc a également accusé la partie grecque de violer les droits des chypriotes turcs dans le partage des réserves d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, autre sujet sensible pour les Européens. Il a promis, je cite, « de continuer à y défendre les droits et les intérêts du peuple chypriote turc, comme nous y protégeons les nôtres ». À Istanbul, Anne Andlauer pour Radio Vatican.
Nous vous en parlions hier. L'Irak est endeuillé par un nouvel attentat de l'organisation de l'État islamique qui visait un marché bondé. Au moins 36 personnes sont mortes, dont des femmes et des enfants. Dans un télégramme envoyé hier soir aux nonces apostoliques en Irak, le pape François a fait part de sa profonde tristesse et dit prier pour que la violence ne vienne pas freiner les efforts de ceux qui s'engagent à promouvoir la réconciliation et la paix en Irak, pays cher au souverain pontife qu'il a visité en mars dernier. Ce message reportage est à retrouver bien sûr sur notre site internet. Ils étaient plusieurs milliers de Colombiens de nouveau dans la rue hier pour protester contre la politique du gouvernement Iván Duque. Les manifestants réclament des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. Depuis le début du mouvement, fin avril, plus de 60 personnes ont été tuées en marge des manifestations. Le 11 juillet dernier, d'importantes manifestations ont eu lieu dans toute l'île de Cuba. Bilan, un mort, des dizaines de blessés et plus d'une centaine d'arrestations. Des troubles d'une ampleur inédite depuis la révolution de 1959. La Havane, sous sanctions américaines depuis 1962, a attribué la responsabilité de ces débordements à Washington. Aujourd'hui, la population est plus que jamais divisée entre défenseurs de la révolution et partisans d'un changement. Pour tenter d'apaiser la situation, le gouvernement cubain a annoncé il y a une semaine une première salve de mesures. Sont notamment facilitées l'importation d'aliments et de médicaments, car la population est en effet confrontée à des pénuries aggravées par la crise économique et sanitaire. Une dégradation tangible pour le père Jean Pichon. Avec trois confrères français, ce prêtre de la communauté Saint-Martin est depuis 13 ans en mission dans la paroisse de Placetas, dans le centre de l'île cubaine. On écoute son témoignage.
On a assisté depuis déjà plusieurs mois à une dégradation de la situation sociale, sanitaire, avec beaucoup de pénuries de produits de première nécessité. Ça avait commencé déjà avant la crise du Covid, mais ça s'est accentué évidemment depuis plus d'un an là. On sentait vraiment les gens fatigués et exténués, avec beaucoup de stress, d'agressivité aussi, parce que la vie quotidienne des Cubains s'est transformée en un véritable calvaire à faire la queue pour tout. Et donc c'était évident qu'il y avait un malaise profond qu'on pouvait sentir. Après, s'attendre à des manifestations telles qu'elles ont eu lieu, non, puisque c'est vraiment du jamais vu. Moi, ça fait 13 ans que je suis à Cuba, j'ai jamais vu ça, mais même historiquement, on n'a jamais vu dans toutes les villes, ou dans beaucoup de villes, en tout cas sur toute l'île, au même moment, le même jour, des gens qui descendent dans la rue et le gouvernement a été lui-même surpris. On le voit dans les réponses qui ont été données. On sent bien qu'ils ont été pris de court et ils ont eu peur.
Au cours de ces derniers mois, est-ce que votre mission auprès de la population a changé et de quelle manière ?
Alors, faut savoir que l'Église à Cuba, elle a quand même une mission humanitaire qui est assez forte. Dès les années 90, après la chute de l'URSS, quand la situation économique est devenue très difficile à Cuba, l'Église a commencé à reprendre un peu de place dans la société par le biais de ce qu'on appelle les comedores, c'est-à-dire des soupes populaires, et de tous les programmes qui permettent de venir en aide aux plus démunis. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité très forte déjà de l'Église cubaine depuis longtemps. Mais c'est vrai que avec la crise sanitaire récente, des gens qui ont faim, il y en a beaucoup plus qu'avant. La difficulté, c'est que nous, on aide dans la mesure de nos possibilités, mais on est confronté au même problème de pénurie. Parfois, même si on a l'argent dans la main, on ne trouve pas les aliments qui sont nécessaires pour nourrir les personnes. Donc oui, notre mission, elle a évolué en ce sens où on est plus attentif et surtout, il y a plus de besoins.
Au sein de la population, est-ce que vous observez une forme de solidarité malgré tout ?
Ah oui, les Cubains, ils sont très solidaires les uns les autres. Ils s'entraident beaucoup. Le problème, si vous voulez, c'est que en ce moment, la vie quotidienne des gens est transformée. Les mères de famille, notamment, passent le plus clair de leur temps à faire la queue pour trouver de la nourriture. Les gens essayent de s'entraider dans la mesure du possible. Le problème, c'est que pour pouvoir aider son voisin, il faut soi-même avoir de quoi nourrir ses enfants.
Êtes-vous inquiet face à la situation actuelle ?
Inquiet, oui, dans le sens où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers, beaucoup plus que la centaine qui est annoncée dans les médias. C'est-à-dire que la police continue à arrêter des gens chez eux. Tous ceux qui étaient dans les manifs risquent de perdre leur travail. Donc là, ils ont commencé à licencier des gens, des professeurs, des personnes qui travaillent dans le monde de la culture. Et dans le même temps, le président a fait un discours appelant l'unité. Et on voit bien que dans les faits, c'est pas du tout le cas. On sent qu'ils ont peur, qu'ils savent pas trop comment ça va se passer. Et du coup, oui, ça inquiète un petit peu parce que il y a quand même un climat de violence qui peut exploser. Malheureusement, face à une situation qui dure depuis tellement longtemps, à un moment, il faut aussi passer outre la peur et se dire, bah, même si ça doit coûter et ça doit être difficile, il faut aussi que les choses évoluent.
Et qu'en est-il des jeunes que vous rencontrez ?
La jeunesse demande un changement et surtout, et c'est ça le constat d'échec qui est flagrant pour ce système politique à Cuba, c'est que les jeunes veulent partir par tous les moyens. La pandémie, les frontières fermées, les difficultés pour obtenir des visas n'a fait qu'accentuer ce désir de partir. En 13 ans, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont parties de Cuba. Mais dès que les frontières rouvrent un petit peu, ça va être une hémorragie. Et donc nous, on essaye de permettre aux gens d'avoir l'espoir de pouvoir construire sa vie ici. Mais c'est très dur pour les jeunes d'avoir un projet de vie sur place. Ils veulent partir parce qu'ils n'en peuvent plus. Objectivement, les Cubains sont dans un moment compliqué. On peut les aider concrètement en priant pour eux.
Un entretien réalisé par Adélaïde Patrignani à retrouver en intégralité sur notre site vaticannews.va.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous avec la rédaction de Radio Vatican, ça sera aux alentours de 13h pour notre journal. Restez avec nous sur RCF Saint-Gabriel. Dans quelques minutes, c'est la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, encore une chanson. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog food. Bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beats me, hates me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Shoot me, sue me, everybody do me. Kick me, kick me, don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. Come on my life. I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality. No, no. I'm tired of being the victim of hate. You're ripping me on my pride and for God's sake. I'd like to heaven to fulfill its prophecy. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Trepidation, speculation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog food. Black man, black man. Brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Oh, tell me what has become of my rights. Am I invisible because you're in on me? You cook a mission for me, speak freely, buddy. Now I'm tired of being the victim of shame. They're throwing me in a class with a bad. Ceci nous amène quasiment à 8h50 heure pour nous de retrouver Véronique Alzieux pour ce troisième volet de la suite de l'histoire consacrée au jardin.
Jean Vassor, quand on parle de jardin à la française, de quoi parle-t-on exactement? Et est-ce que cette notion ne peut se comprendre que par comparaison ou peut-être même opposition avec le jardin à l'anglaise?
Alors, quand on parle du jardin à la française, bon, tout le monde a en tête l'exemple de Versailles, qui en est la plus brillante illustration, ou de Vaux-le-Vicomte, qui l'a immédiatement précédé et qui répond au même esprit. Donc, ce jardin régulier, symétrique, ordonné, répond à un schéma précis, qui bien sûr est différent du jardin à l'anglaise, on y reviendra peut-être, mais qui est aussi le produit d'une histoire qui s'enracine dans les siècles qui ont précédé et qui tient à la fois au fait que ce jardin est le fruit d'évolutions esthétiques, d'évolutions formelles, que ce jardin est aussi le fruit d'objectifs politiques, et puis enfin, il est également lié à des conditions culturelles propres au XVIIe siècle. Depuis les jardins aristocratiques du Moyen-Âge, qui étaient des jardins souvent clos, enfermés par des murs, ou même, pour les plus petits, dans la cour du château. Peu à peu, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les jardins sortir du château. Premier élément. Deuxièmement, se débarrasser de leurs murs, ou en tout cas, avoir des murs qui n'empêchent pas de voir plus loin, pour manifester une idée nouvelle, à savoir que le maître du jardin n'est plus quelqu'un qui se replie dans son château, mais c'est quelqu'un qui entend affirmer son ambition dans la société en projetant son jardin au dehors. Donc il y a cette idée de domination de l'espace, doublée d'une deuxième qui est que le jardin est fait pour être contemplé en même temps que le château. Du château, on voit le jardin, du jardin, on voit le château, et c'est l'ensemble qui crée une impression de grandeur, de solennité, d'autorité, de majesté. Et cela, ça se fait progressivement. Alors, dans le détail, ensuite, il y a dans les formes aussi des choses qui vont renforcer cette tendance.
Alors, on va revenir sur les formes, mais d'abord, j'aimerais savoir pourquoi ce désir de manifester sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ou peut-être dans la société qui explique ce bouleversement ?
Ben, on est dans la logique, si vous voulez, de l'ambition humaniste, du sentiment de l'humanité de la Renaissance, d'avoir davantage de possibilités d'agir sur les choses, de s'affirmer par rapport aux choses. Et au moment même où les grandes découvertes font qu'on commence à conquérir l'espace planétaire, eh bien, les notables, que sont les grands seigneurs, ou les rois a fortiori, entendent aussi assurer une espèce de conquête symbolique de l'espace qui jouxte leur château.
Donc c'est une idée de maîtrise et de domination de la nature.
C'est une des idées qui préside à cette évolution, oui.
Alors les formes dont vous parliez, ça se manifeste comment ?
Les formes sont que, à la Renaissance encore, les jardins d'agrément, les jardins aristocratiques, sont des jardins qui juxtaposent des carreaux, comme on dit, des parterres, si vous voulez, qui les juxtaposent les uns à la suite des autres, si bien qu'on découvre leur beauté en se promenant à travers une déambulation. C'est une simple juxtaposition sans grande idée de vue d'ensemble. Et puis, peu à peu, d'abord, on commence par faire des parterres plus grands. C'est-à-dire qu'un jardin, au lieu d'avoir 16 parterres, va plus en avoir que 4, pour déjà donner une certaine unité. Et puis, à la fin, on va même arriver à un seul parterre. Ce parterre, au lieu d'y disposer les fleurs selon des formes géométriques, on va faire ce qu'on appelle des parterres de broderie, c'est-à-dire des entrelacs de végétaux qui donnent à l'œil l'impression d'un tapis, donc d'un tapis unique. Et puis, également, on va mettre l'accent sur l'axe central du jardin, qui est le même axe que l'axe central du bâtiment, qui fait donc que le bâtiment, le jardin, juxtaposés, sont organisés par le même axe de symétrie et forment donc le même ensemble. Et peu à peu, ce jardin qu'on avait l'habitude de découvrir en déambulant, on le découvre d'abord désormais par une vue d'ensemble, qui est donc une vue dominante et qui amène peu à peu au jardin à la française. Le jardin à la française, c'est cette idée de vue dominante poussée à l'extrême et structurée, organisée par les perspectives tracées à travers le jardin.
Alors perspective, ça sous-entend aussi dans tout ce que vous venez de décrire qu'on est purement dans la géométrie, même dans les mathématiques. On maîtrise suffisamment ces données à cette époque-là pour se permettre aussi ce genre d'inventivité, de création.
Tout à fait. Tout à fait, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en expliquant que des conditions culturelles participaient aussi de cette évolution. La géométrie et l'optique en particulier sont des sciences développées à l'époque, d'abord à cause des astronomes, notamment Galilée. La perspective, c'est aussi un élément qui entre en ligne de compte dans le travail des astronomes. À quoi s'ajoute, dans le cas de Galilée, l'affirmation, Galilée c'est au début du XVIIe siècle, hein, l'affirmation que la nature est écrite en langage mathématique. C'est-à-dire qu'on passe de la vision traditionnelle que défendait Aristote de la physique des qualités à l'idée que le monde s'organise de façon numérique. Et donc, le plan raisonné, le plan préétabli d'abord avec ses bases mathématiques, est quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit de l'époque. Et ça, c'est possible parce qu'on a affaire à des jardiniers, bon, le plus célèbre, c'est le nôtre, qui maîtrise bien ces matières. Il la maîtrise parce qu'ils connaissent un petit peu les découvertes scientifiques, et puis ils la maîtrisent aussi parce qu'ils ont eu une formation d'artistes, notamment d'artistes peintres. Le nôtre, dans sa jeunesse, a participé à l'atelier de Simon Vouet. Donc la perspective, c'est à la fois le savoir du peintre et le savoir du mathématicien.
Jardin du mois de mai, où êtes-vous ce soir? Jardin fleuri, nos cœurs se sont aimés par une nuit de tendre espoir. Jardin du souvenir, mon premier rendez-vous. Désir charmant et soudain désir fou, tout tourne autour de nous. Depuis, j'ai voyagé là-haut, souvent dans de beaux nuages, changeant d'amour comme l'oiseau change de paysage. Mais rien n'a pu changer au jardin de mon cœur.
Mon seul. Jean Vassor, vous venez de nous décrire le jardin à la française et sa conception, sa symbolique. Quel différencia-t-il avec le jardin à l'anglaise alors ?
Alors le jardin à l'anglaise ou le jardin anglo-chinois tel qu'il émerge au XVIIIe siècle s'inscrit en opposition assez évidente avec le jardin à la française. Le jardin à la française, c'est l'ordre, la rigueur, la symétrie, le primat de la droite, tous ces éléments matérialisant le regard du maître sur le jardin, un regard global, un regard dominant. Le jardin à l'anglaise, c'est la souplesse, c'est la courbe, c'est la sinuosité, c'est l'absence de vue globale, c'est la surprise. On retrouve la déambulation ici. Et le fait pour le promeneur qui visite le jardin de découvrir, au gré de ses pas, des endroits qui sont charmants, des endroits qui sont magnifiques, des endroits qui sont impressionnants, des endroits voire qui sont terrifiants, un chaos de rochers, etc. Le tout étant fondé sur l'idée que ce qui compte désormais, ce n'est plus la raison dominante de celui qui conçoit le jardin, mais la sensibilité du spectateur qui reçoit le spectacle, les spectacles successifs de ce jardin. Du moins, telle est l'illusion que l'on crée. L'illusion, c'est que ce jardin est un jardin naturel. C'est ce qu'il prétend être. En fait, c'est une nature complètement artificielle. Il y a une citation très célèbre à ce sujet qu'on peut évoquer, c'est celle de Julie dans La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui parle de son jardin de l'Élysée et qui dit « La nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n'y a rien que je n'ai ordonné. » Donc c'est une nature tout à fait artificielle qui est présentée aux spectateurs, enfin aux visiteurs, mais qui, bien sûr, est quelque chose de très différent de ce qu'était le jardin à la française.
Et ça, c'est révélateur de conception, de mentalité même très différente ?
Alors, c'est révélateur, bon, d'une part, d'une influence anglaise, tout de même, et d'une influence chinoise aussi, qui a été réutilisée. C'est révélateur d'une mentalité nouvelle où, face à la raison cartésienne, si vous voulez, du XVIIe, ou même la raison des Lumières, s'affirme de plus en plus le jardin à l'anglaise en France, c'est à partir des 1750-60.
C'est ça, c'est qu'on trouve des jardins à l'anglaise en France.
Ah, bien sûr, bien sûr. Un exemple célèbre que tout le monde connaît, c'est le hameau de la Reine à Versailles, fait par Richard Mick. C'est un jardin à l'anglaise. Et puis, il y a eu le jardin d'Hermenonville, par exemple, le jardin de Méréville. Enfin, il y a un certain nombre de jardins. Les aristocrates se font faire des jardins à l'anglaise à la fin du XVIIIe siècle.
L'inverse, c'est vrai aussi ? On trouve des jardins à la française en Angleterre ?
Très peu. Très peu. Mais oui, en fait, si vous voulez, ces choses-là s'expliquent par l'usage qui en est fait. Le jardin à la française ne va pas disparaître et il connaît même un regain d'intérêt après 1870 avec des paysagistes français qui s'appellent Duchesne, Eugène et Achille, le père et le fils. Parce que là, ça apparaît comme un art français. Et au moment où la France vient d'être vaincue par la Prusse dans la guerre de 70, c'est une façon de réaffirmer, comme disait Spiritus, un ars gallica, un art français, national, patriotique. Et le jardin à la française demeure tout de même le jardin de l'autorité, le jardin officiel. Et souvent les châtelains, même au XIXe siècle, qui se font construire un château, devant le château mettent une partie qui est en jardin à la française. Et puis au-delà, ils mettent une autre partie qui est en jardin à l'anglaise. Parce que le jardin à l'anglaise, c'est celui qui séduit le plus la population, l'opinion. Au XIXe siècle, les jardins publics dans les villes sont des jardins à l'anglaise. Mais la froide solennité, si vous voulez, du jardin à la française conserve ses usages. Et alors, notamment, auprès des princes, auprès des autorités politiques. C'est pourquoi je disais en Angleterre, Hampton Court, qui est un château royal.
Et toujours pour les mêmes raisons, ça manifeste une puissance, une domination, une maîtrise.
Exactement, c'est ça. C'est une maîtrise, enfin, c'est le propre même de l'art classique, hein, du classicisme, si vous voulez, qui a quand même, si Louis XIV a soutenu cette sensibilité artistique, c'est pas par hasard, c'est que l'ordre qui règne dans le classicisme lui paraissait correspondre avec celui qu'il entendait défendre dans sa politique.
Merci beaucoup Jean Vassor, à demain.
Voilà, c'est terminé pour ce troisième volet de la suite de l'histoire. Le quatrième volet, c'est demain matin dès 8h50. Vous le savez, ça sera aussi dans la suite de la matinale. Je vais malheureusement vous quitter pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je reviens dès demain matin avec une autre suite de la matinale, bien sûr. Et ça sera jusqu'à vendredi, parce qu'après vendredi, eh bien, c'est les vacances qui débutent pour moi. Donc, eh bien, malheureusement, vous devrez vous passer de moi jusqu'au mois de septembre, mais je serai très ravi de vous retrouver d'ici là. Passez une bonne journée, restez à l'écoute de RCF Saint-Gabriel. Tout de suite, c'est le radioguidage. Bye bye.
Il est dans les films, il est dans tous les scénarios. Toujours au premier rang, il nous pousse, il nous rend héros. Je veux casser la machine de le voir partout, ça me rend miro. Si je dis que j'ai jamais dit je t'aime, on s'affole, on me traite de mytho. Oh, je sais plus sur quel pied danser. Avec ses rengaines, parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Tout le monde sait son nom. On nous saoule avec ses rengaines, parfois oui, parfois non. Toujours savoir pourquoi on s'aime. Pourquoi on s'aime. Après, souvent pour attraper ce qu'il en reste, avant de passer au suivant, on tente tout, on trie, on teste. J'ai tenu des nuits sans sommeil, attendre le moindre message. Face à ça, on est tous les mêmes.